Europe 1. On de la traconte, code B, la suite de votre épisode.
Code B13, expertise psychiatrique des docteurs Masson et Bonan. Marie-Josée Marquez affirme qu'Elsa, à chaque retour de chez son père, était méconnaissable. Elle criait et elle pleurait. En consultation médicale, elle s'accrochait à sa mère, refusant de parler au médecin. Ainsi, cet enfant était, selon elle, de plus en plus mal. Maître Patricia Coutan, avocate de Marie-Josée Marquez.
Elle a l'apparence de n'importe quelle grand-mère sympathique, tout en ayant quand même un fort caractère, ça se voit. Tout en étant extrêmement volubile, hein, c'est difficile de faire des entretiens d'une heure hein, avec elle, c'est vraiment, ça part un peu dans tous les sens, parce qu'elle a besoin de développer, qu'elle a besoin de réponses sur énormément de choses, parce qu'elle est très angoissée en fait. Donc, qui dit beaucoup d'angoisse dit beaucoup de questions, et moi en fait je suis son avocat, je suis la seule qui aille la voir au parloir, donc je suis sa bouée de sauvetage. Elle s'accroche à moi, enfin, comme on fait souvent avec un avocat, hein, c'est notre métier, mais là quand il n'y a personne d'autre autour, voilà, donc quelqu'un d'angoissé, quelqu'un qui a du caractère. Et quelqu'un qui a un millier de questions et pas trop de réponses. En même temps, il m'apparaît assez vite qu'elle est vraiment totalement effondrée par ce qu'elle a fait. Je veux dire, elle n'est pas du tout dans la revendication de son acte, à dire on n'avait pas le choix, etc. Elle me dit on n'avait pas le choix, mais elle me dit aussi que ce n'était pas la bonne solution. Et elle me dit bien dans son discours, je ne voyais pas à ce moment-là d'autre solution. Donc il y a quand même une autocritique. Mais elle n'arrive pas à analyser tout ce qui précède l'acte et à se dire... Peut-être qu'on a pu mal interpréter.
Oh, maître, je suis heureuse que vous m'écoutiez. Parce que si on en est arrivé à cette situation, c'est parce que ça fait des années qu'on ne nous écoute pas. Mon fils était un bon policier, un très bon. Il avait soulevé des affaires si bizarres que c'était du secret défense. Et puis ils l'ont viré de la police parce qu'il avait mis à jour un secret d'État. Et on a été obligé de fuir en Angleterre, et puis aux États-Unis. Marc, c'était le flic. Elisabeth, ma fille, c'était un médium. Elle sentait les choses. Elle aidait son frère dans les enquêtes.
Alors, je peux vous l'expliquer, mais vous n'allez pas le comprendre, et je ne l'ai pas compris, et je pense que personne ne peut vraiment comprendre, en fait, la logique de tout ça, parce qu'en réalité, je pense qu'il n'y a pas de logique. Sa logique à elle, c'est de me dire, nous avons, pendant des années, été victimes d'un certain nombre de choses, et notamment de ce qu'elle appelle un déni de justice. Elle veut dire par là, la justice ne nous a pas entendus, la justice ne nous a pas soutenus, la justice ne nous a pas protégés. Et là, elle parle de toute cette histoire dans laquelle la famille s'est sentie traquée, poursuivie, menacée, a pris la fuite à l'étranger, etc. Et donc, elle dit, la justice n'a pas été là pour nous. Et quand arrive cette petite Elsa dans la famille, et que la famille va se retourner en quelque sorte contre le père de cette petite fille, qui devient le mauvais objet, on ne sait pas trop pourquoi finalement, hein, mais du jour au lendemain, M. Mistrali devient persona non grata, là, ce que fait cette famille, c'est qu'elle se tourne à nouveau vers la justice, juge des enfants, etc., assistante sociale, enfin voilà, on appelle à l'aide les institutions en disant il y a un problème, notre enfant est en danger. La justice, à ce moment-là, va réagir, mais pas comme on l'avait prévu. C'est-à-dire que la justice réplique en disant cette petite fille, effectivement, vit un danger auprès de sa mère et pas auprès de son père. Et là, c'est ce que Madame Marquez appelle un déni de justice transgénérationnel. Elle me dit, mais alors, à ce moment-là, nous, on comprend que ce déni de justice, cette chose qu'on se traîne, qui nous colle aux pieds depuis des années, va se répercuter aussi sur Elsa et que Elsa va être elle également, victime d'un déni de justice. Et ça, ça leur est insupportable. L'étape suivante, c'est, pour sauver Elsa, il n'y a plus aucune solution. On ne peut pas fuir à l'étranger avec elle parce qu'on a une interdiction de quitter le territoire. Donc, on est au pied du mur. Donc, la seule solution pour sauver Elsa, hein, ce sont leurs termes, hein, pour sauver Elsa, il faut qu'on parte tous ensemble. Voilà. Il faut qu'on parte tous ensemble, ça veut dire qu'il faut qu'on se donne la mort tous ensemble. on va dire à cette femme et à sa fille d'ailleurs, tuer un enfant, ça ne le sauve pas. Enfin, ça paraît quand même quelque chose d'évident. Elle en convient parfaitement. Mais elle en convient après coup. Parce que, parce qu'elle voit les dégâts, parce qu'elle voit qu'elle a perdu son fils, parce qu'elle voit qu'elle a perdu sa petite fille, et que d'ailleurs, la petite fille est élevée par le père. Donc, en fait, le résultat est à l'opposé de ce qu'elle avait comme objectif. Mais ce qu'elle m'explique, et là, moi, je la crois à 200%, c'est qu'en fait, au moment de cette prise de décision, on ne voit pas d'autre solution que la mort. Parce que, d'abord, elle est dans un fonctionnement psychique bien ancré depuis des années et qu'ils sont trois à raisonner dans le même sens, qui est probablement pas le bon, mais qui est le leur, et que le désespoir fait qu'à un moment, il y a une souffrance psychique qui est telle qu'on n'arrive plus à raisonner autrement et qu'on n'arrive plus à envisager d'autres possibilités.
Marie-Josée Marquez, la grand-mère, a 73 ans. Et sa vie de mère de famille a été douloureuse, car en 1965, elle a perdu une fille, mort-née.
Elle va se marier assez jeune et elle va donner naissance à un enfant mort-né de 7 mois et demi. Alors ça, c'est quelque chose sur quoi on est passé très vite dans le dossier, mais moi, je pense qu'une jeune mère qui commence sa vie de mère comme ça, c'est un élément hyper traumatisant. Et puis 7 mois et demi, hein, donc c'est un enfant qui est prêt à naître, hein, carrément. Donc il va y avoir cet événement-là qui est absolument dramatique. Elle a un arrêt de travail assez court, il faut qu'elle reprenne sa vie, donc ça, c'est quelque chose qui lui a causé beaucoup de mal. Et ensuite, elle va donner la vie à Marc. Et donc, elle dit, Marc, c'est la prunelle de mes yeux. Mais bien sûr, parce que c'est un bébé qui répare la mort du bébé précédent. Et donc, c'est l'aîné. Il arrive après ce bébé mort-né. Donc, évidemment, Marc est quelqu'un d'extrêmement cher à son cœur et peut-être une partie d'elle-même, en quelque sorte. Ensuite viendra Elisabeth, qui est tout aussi importante que son frère à ses yeux, bien sûr, mais il va aussi y avoir un autre événement, puisqu'elle va devoir faire un avortement thérapeutique à plus de 4 mois de grossesse, donc très tard encore, pour un bébé qui n'est pas viable. Donc, dans sa vie de mère, elle a déjà vécu deux deuils qui sont des deuils quand même extrêmement douloureux, qui peut-être n'étaient pas très bien accompagnés à l'époque. Hein, on se souciait moins de ces événements-là qui faisaient partie de la vie, en quelque sorte. Le psychologue considère que sa relation à ses enfants, qui est extrêmement fusionnelle et qui sont presque une partie d'elle-même, elle est notamment liée à ça, parce que voilà, elle a perdu deux bébés et que les deux autres font partie d'elle et qu'elle ne peut pas s'en détacher. Et elle va vivre finalement sa vie de femme adulte avec ses enfants. Ils vont habiter très souvent ensemble, alors qu'à un moment, normalement, les enfants prennent leur envol et vivent leur propre vie.
Code B13, expertise psychiatrique des docteurs Masson et Bonan. Après 24 ans de mariage, Madame Marquez demande le divorce car elle a compris que son conjoint la trompe. Elle n'a pas refait sa vie.
À ce moment-là, je pense qu'il se joue quelque chose dans le noyau familial, parce que le mari devient le mauvais objet, un peu comme quelques années plus tard, M. Mistrali, hein, finalement. Une personne du clan devient le mauvais objet. Les enfants doivent voir leur mère en très grande souffrance. Et quand on voit quelqu'un qui souffre, notamment un parent, on se colle à ce parent et on essaie de le réconforter. Donc à ce moment-là, il va y avoir une vraie cellule familiale, Madame Marquez, Elisabeth et Marc Silva, dont est exclu leur père. Voilà. Et là, à partir de ce divorce-là, je pense qu'il y a vraiment un noyau, une cellule clanique, oui peut-être, de trois personnes qui se créent et qui se soudent, et qui va se souder d'autant plus que dans l'adversité, on va se souder de plus en plus et être de plus en plus proches les uns des autres.
Code B13, expertise psychiatrique des docteurs Masson et Bonan. Elisabeth Silva relate comment la famille a imaginé un suicide collectif. Elle dit « Mon frère, ma mère et moi, ainsi que ma fille, avions dîné. C'était aux environs de 20 heures, je pense. Après le dîner, je suis resté avec ma fille, je l'amusais, je dansais avec elle dans mes bras. Mon frère et ma mère étaient dans la cuisine. C'est là que tout s'est décidé. Mon frère ne voulait plus que l'on souffre. » Docteur Paul Bonan, expert psychiatre.
Et ils sont tous, finalement, là, d'accord là-dessus. Ils préparent donc des médicaments qui pilent, qu'ils mélangent à de l'alcool, qui mettent dans le biberon de l'enfant. Les deux femmes en prennent et le frère dit avant d'en prendre, j'ai quelque chose à faire avant. Et apparemment, il va mettre des bidons de white spirit qu'il va déverser à l'étage et il va mettre le feu. L'incendie va sauver l'enfant et les deux femmes, mais le frère va mourir par l'intoxication à l'oxyde de carbone.
Code B10, expertise psychiatrique du docteur Dandelot. Elisabeth Silva a une relative conception de la mise en danger de sa fille. Pour elle, la principale raison de ce geste reste les agressions commises par le père de l'enfant et qu'il fallait à tout prix cesser pour le bien de sa fille. Madame Silva ne peut pas s'exclure de cet échafaudage en prêtant une fausseté du jugement à ses clients. Maître Alexandre Novion, avocat d'Elisabeth Silva.
Comme toujours, il n'y a pas une seule cause. Il y a plusieurs facteurs qui vont quelque part se conjoindre. Il y a d'abord, incontestablement, et tel que le verra le psychiatre, le docteur Bonan, une dépression. Sur l'échelle de la dépression, elle a descendu à peu près tous les barreaux. Elle est en suquet, elle est tout en bas. La veille des faits, elle a à peu près la force d'une centenaire convalescente. Elle est au bout du rouleau. Je crois que c'est là que le fanatisme religieux de la mère joue un rôle qui est un rôle d'une densité incroyable. C'est que finalement, pour cette femme qui est totalement imprégnée par et totalement dévote et fanatique, la mort n'est qu'une ouverture sur l'au-delà. Donc à partir de là, vous avez voilà une Elisabeth Silva éreintée, un frère qui se sent au bout du chemin puisque toutes ses tentatives pour faire reconnaître son combat de policier a échoué. Vous avez une Elisabeth Silva qui a consacré une énergie folle à écrire un livre qui s'appelle « Les piliers de la sagesse » dans lequel elle évoque le combat de son frère, son propre combat. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se battent, ils se battent individuellement, mais quand il y en a un qui se bat, l'autre est totalement dans son combat. L'autre est quelque part totalement innervé par le combat de la mère ou du frère. Comme si, finalement, il y avait une sorte d'unité mentale dans cette famille qui faisait que chaque fois, quand il y en a un quelque part qui souffre, l'autre tremble. Enfin, c'est voilà, ils sont totalement, totalement reliés. Et finalement, celui qui va matérialiser les actes concrets, les actes nécessaires à la disparition familiale, c'est quand même, en tout cas, le frère qui va acheter tout le matériel de combustion, le white spirit, tous les éléments qui sont destinés à incendier le logement, c'est le frère qui s'en occupe. Et il n'a jamais été vraiment démontré que Elisabeth Silva ait été véritablement au courant, ou en tout cas dans ce dessein particulier de partir dans le feu.
Quatre ans après l'incendie de l'appartement qui a entraîné la mort de Marc Silva, sa mère et sa sœur sont jugées devant la cour d'assises de Saintes. Marie-Josée Marquez et Elisabeth Silva sont lourdement condamnées. 15 ans et 20 ans de prison. Un an plus tard, mère et fille sont rejugées en appel. Et elles n'ont pas bougé d'un iota. Elles croient toujours que le père de la petite Elsa était un danger pour l'enfant.
De mon point de vue, il y a zéro remise en question.
Maître Michel Cocoynac, avocat du père d'Elsa.
Là, je perçois de mon côté de la barre qu'on avait deux dames, la dame Marquez et la dame Silva, qui étaient inamovibles dans leur certitude. Donc avec ça, il faut faire avec. On a eu un même positionnement, premier dossier, première instance et session d'appel, le même. Donc leur dire qu'elles se trompent, et je pense que là le psychiatre peut le dire, dès l'instant où on est sur un fonctionnement qui est paranoïaque, vous pouvez démontrer à un paranoïaque qu'il a tort ou en tout cas qu'il se fait de la vérité une perception particulière, vous pouvez lui dire par A plus B, lui démontrer, vous serez aussi dans le processus de paranoïa puisque finalement vous essayez de lui faire croire à quelque chose auquel il ne peut pas adhérer. Donc je sais pas comment on peut s'en sortir. Hein.
Docteur Paul Bonan, expert psychiatre.
On est dans le sens qu'il faut surtout les responsabiliser. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un rapport à la justice. Sinon, elles sont dans une toute-puissance. Et que ce qu'elles font est normal. Parce que la justice ne fait pas son travail, donc elles le font à la place de la justice. Et c'est pour ça que pour les paranoïaques, ma position est très claire. Certes, il y a une maladie. Certes, il y a un délire. Mais il faut absolument qu'ils soient confrontés à la réalité, car ils sont en dehors de la réalité. Mais il faut que cette réalité puisse être donnée par rapport à la loi, et que c'est la loi qu'il faut que chacun d'entre nous respecte, et que c'est la loi qui peut permettre qu'ils rentrent plus ou moins dans les rails.
Faites entrer les accusés.
Ce qu'il aurait fallu, dans l'idéal, pour qu'elle soit défendue au mieux, c'est qu'elle change de discours.
Maître Patricia Coutant, avocate de Marie-Josée Marquez.
Qu'elle ait un autre discours à l'audience qui consisterait à dire « J'allais très mal, j'ai complètement déliré, je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là, et maintenant je vois bien qu'effectivement c'était du grand n'importe quoi. » Mais c'est impossible, puisque son mode de fonctionnement psychique, son mode de raisonnement n'a pas changé. Et que revenir sur ce qu'elle pense, ça serait mentir, et que c'est pas quelqu'un qui ment, Madame Marquez. Elle est entière, elle dit ce qu'elle pense, donc elle va pas jouer la comédie pour être mieux jugée. Il n'y a pas d'évolution entre le premier et le deuxième procès, parce qu'il ne peut pas y en avoir. Et je pense que s'il y avait un troisième procès, il n'y aurait pas plus d'évolution. Et comme l'expliquait d'ailleurs un des psychiatres, le trouble délirant paranoïaque, il va arriver plutôt vers la quarantaine, et plus il évolue et plus il est ancré. Donc on ne peut pas espérer de changement dans l'analyse des choses, quoi.
Elisabeth Silva.
Maître Alexandre Novion, avocat d'Elisabeth Silva.
Elle n'a pas pu se présenter de la meilleure façon, et elle a au contraire montré un visage et un comportement qui a inquiété au lieu de rassurer. La justice, elle la porte nécessairement, quand on l'inquiète, des réponses défavorables.
Trois psychiatres expertisent la grand-mère, Marie-Josée Marquez, mais leurs conclusions sont divergentes. Le premier retient une altération de son discernement, le second aussi, mais le troisième, en revanche, retient une abolition du discernement. L'avocate de Marie-Josée Marquez s'engouffre dans ce flou des expertises.
Donc on a des experts altération, des experts qui retiennent l'abolition, et dans le doute, quand on est dans la zone grise et où on ne sait pas trop finalement où se situer, eh bien dans le doute, on va reconnaître la responsabilité pénale et juger quelqu'un pour altération, alors que peut-être il devrait être jugé en tant que personne abolie. Et ça me semble quand même un peu contraire, même totalement contraire, au principe fondamental de la justice, hein, qui est que le doute, y compris sur la question psychique, doit profiter à l'accusé.
Avant que la cour ne se retire, comme c'est l'usage, Elisabeth Silva a la parole en dernier. Et elle adresse un message à sa fille, qui, évidemment, 6 ans et demi, n'est pas là. « Je te demande pardon, Elsa. Sois libre. » Heureuse et en bonne santé. J'espère qu'un jour, tu me pardonneras. Et comme en première instance, Elisabeth Silva est condamnée à 20 ans de prison et sa mère Marie-Josée Marquez à 15 ans. Elisabeth Silva est aussi déchue de l'autorité parentale sur sa fille Elsa.
Thank you.
C'était On de la traconte, code B. Rédaction en chef Guillaume Maury. Réalisation Guillaume Vasseau.
Retrouvez On de la traconte, code B, tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.